Je vous invite à présent à lire un récit de l'Évangile, une apparition du Seigneur Jésus à ses disciples, Jean chapitre 20, les versets 19 à 29. Jean 20, 19 à 29. C'est le jour de la résurrection et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il leur eut dit cela, il leur montra sa main et son côté. Ses disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas le doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Imaginez un instant que vous ayez été consulté pour écrire le meilleur scénario pour les 40 jours que Jésus a vécu sur la terre une fois ressuscité. Qu'aurions-nous proposé ? Le mot-clé qui jaillit sur nos lèvres à Pâques est celui de triomphe. Quel scénario donc pour le triomphe du ressuscité ? Être ressuscité, c'est immense. Comment valoriser l'événement ? La question vous semble peut-être étrange, mais elle met en lumière un aspect étonnant des évangiles. Jésus ressuscité se manifeste avec une sobriété tout à fait étonnante. Une sobriété tout à fait étonnante. J'avais osé, il y a quelques années, une petite méditation sur ce sujet. Le triomphe de Jésus ressuscité est un triomphe dans l'humilité. Je me souviens que ce n'avait pas éveillé beaucoup d'écho. J'ai donc laissé cette pensée de côté, la considérant un peu trop marquée par mes préoccupations d'un moment. Mais pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur une interview du philosophe chrétien Fabrice Hadjadj. Il croit profondément à la résurrection corporelle de Jésus. Mais il s'étonne de la sobriété des évangiles concernant l'action du Christ ressuscité. Hadjadj y voit une marque chrétienne très particulière et une vision de la condition humaine qu'il nous faut bien intégrer. J'étais un petit peu boosté en relisant ça. Je vous lis quelques extraits. On est stupéfait, dit-il, de cette simplicité des évangiles. Surpris au second degré, précisément parce que Jésus ne fait rien de spectaculaire comme on s'y attendrait. Après tout, ce n'est pas rien d'être descendu aux enfers et d'en revenir. Le type qui a réussi ça devrait ressusciter des tas de morts, devrait faire apparaître des villes en claquant des doigts, rouvrir la mer Rouge, y installer une rue commerçante, qu'il rapporte au moins un message d'outre-tombe, complètement ésotérique et inédit. Mais non, dit Hadjadj. Jésus ressuscité dit « La paix soit avec vous », c'est-à-dire « Bonjour ». Et ne fait même pas les miracles de sa vie publique. Il est juste là, au milieu des siens. Il mange, il boit avec eux, il leur commente les Écritures. Il leur fait même un feu et la cuisine sur les bords du lac de Tibériade. Tout ça pour ça. Bien sûr, il y a l'ascension. Ouf, un peu de spectacle. Mais non, aussitôt apparaissent deux vigiles en blanc qui expliquent aux spectateurs regardant le ciel que ce n'est pas là que ça se passe. Fin de citation. C'est vrai, la résurrection de Jésus, toute glorieuse qu'elle soit, s'est faite sans tapage. Tout commence par un signe négatif, d'ailleurs, le tombeau vide. On craint un rapt, une humiliation ultime, profanation de son corps. Et c'est ainsi que le premier écho de la résurrection de Jésus est le sanglot de Marie-Madeleine. Marie était restée dehors près du tombeau et elle pleurait. Pense qu'on avait pris le corps de Jésus. Et puis ici ou là, Jésus apparaît. C'est magnifique. Cela a une signification immense. Mais même ces apparitions restent marquées par l'humilité. Peu de personnes le voient, sauf en une occasion où 500 personnes, nous l'avons lu, sont témoins ensemble. Et quand ils le voient peu. Les apparitions sont furtives. Les disciples voudraient retenir Jésus, mais Jésus leur fait bien comprendre qu'il ne leur appartient pas. Quand il est là, pas de grande démonstration de puissance, pas de grand discours non plus. Jésus qui a tant enseigné et qui aurait certainement tant à dire sur ce grand passage qu'il a vécu, Jésus ne développe pas. Ses paroles se caractérisent plus par la tendresse, par l'envoi en mission, que par l'ampleur du développement. Le triomphe de Jésus est un triomphe humble, non pas parce qu'il serait douteux ou mal assuré, il est réel, il est fort, mais parce qu'il a choisi d'être humble. Et c'est un choix qui, comme tous ceux de Jésus, mérite qu'on s'y arrête. Ce choix, c'est d'abord une question de relation, je dirais. C'est d'abord le choix des personnes à qui Jésus se montre une fois ressuscité. Quand on lit les évangiles ou les autres récits du Nouveau Testament, on constate que Jésus choisit ceux à qui il apparaît. Il se montre à plusieurs reprises à ceux qui s'étaient attachés à lui, qui l'avaient suivi d'une manière ou d'une autre. On compte ici les femmes, les apôtres, d'autres qui avaient cru en lui sans faire partie du cercle intime des 12, comme les disciples d'Emmaüs. Paul mentionne 500 frères à la fois. Qui sont ces 500 frères? On ne le sait pas. Il a fallu simplement que ces 500 se réunissent quelque part. Étaient-ils autour des apôtres? On peut le penser, mais sans certitude, on ne sait rien. Ceci dit, cette apparition du Christ à un groupe a un but particulier. Non pas d'épater les foules, mais de valider la parole des témoins de la résurrection de Christ. Il ne peut pas s'agir d'hallucination personnelle quand il y en a 500 ensemble. Il ne peut pas s'agir simplement de gens qui avaient trop besoin d'y croire, comme on pourrait peut-être le penser de disciples pris individuellement. Non, on valide ainsi la réalité de la résurrection. 500 personnes, ça donne une objectivité au témoignage. Mais Jésus ne l'a fait qu'une fois. Il n'a pas multiplié ce genre d'apparition. Une autre catégorie significative de ceux à qui il apparaît, enfin catégorie, c'est au moins deux personnes, ce sont des personnes qui étaient à ce moment-là, de manière notoire, loin de toute foi en Jésus et qui soudain sont complètement retournés dans leur position. C'est le cas de Jacques, frère de Jésus. Jacques, qui du temps du ministère de Jésus, ne croyait pas en lui, comme ses autres frères. Il ne croyait pas en lui, ça nous est dit dans l'Évangile. Et ce qui veut dire que la mort de Jésus, normalement, c'était juste la preuve qu'ils avaient eu raison de ne pas trop croire en Jésus. Parce qu'il faisait peu de choses de ce qu'ils attendaient. Et voilà que Jacques, on le découvre tout d'un coup parmi les témoins du Christ vivant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu quelque chose pour que vraiment Jacques soit retourné comme cela. C'est le cas de Paul aussi, farouchement opposé à tout ce qui concernait la foi en Jésus. Et ces deux apparitions, Jésus les a ciblées parce qu'il voulait que ces personnes jouent un rôle dans la suite de son plan, mais aussi pour affirmer, pour affermir la crédibilité des témoins, en intégrant dans le cercle de ces témoins des gens qui indiscutablement n'y croyaient pas avant et pour qui il fallait que quelque chose soit intervenu pour les faire changer de position, d'avis. Il a fallu une raison contraignante pour que Jacques ou Paul, qui n'étaient pas du tout partis pour croire en Jésus, deviennent des témoins de sa résurrection. Jésus choisit donc ses témoins, Jésus cible ses témoins pour un témoignage solide. Mais il le fait personnellement. Pour ceux qui avaient été proches de lui et fidèles, son choix tient à la mission qu'il veut leur confier, mais c'est aussi une attention tellement personnelle à leur égard. C'était des hommes, des femmes brisés par sa mort. Ils avaient beaucoup donné, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils avaient beaucoup espéré, et Dieu le savait, le mesurait. Revenu à la vie, sa première pensée, son premier soutien est pour eux, qui sont complètement cassés par sa mort. On le voit dans sa rencontre avec Marie-Madeleine. Jésus s'intéresse à elle, Jésus s'inquiète d'elle. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demande-t-il. « Pourquoi ? Qui cherches-tu ? » Et pour se faire reconnaître par elle, il ne se présente pas lui en disant « Je suis Jésus, regarde-moi !» Mais il prononce son nom à elle. Il l'appelle Marie. Une façon de lui dire que sa victoire à lui, c'est pour elle. Découvrir le Christ vivant ressuscité au moment où il prononce mon nom. Quel message, quel cadeau. C'est le sens de cette intervention tellement personnelle à Marie. Et on retrouve la même chose pour Pierre. Pour lui aussi, Jésus a voulu une rencontre éminemment personnelle, à cause du besoin tout particulier de son disciple qu'il avait renié dans un moment de faiblesse, mais qu'il avait immédiatement tellement regretté. Et le jour de la résurrection, quel est le bruit qui court de partout ? Le Seigneur est apparu aussi à Pierre. Il voulait l'aider, le soutenir, le relever. Et plus tard, devant tous, Jésus interrogera Pierre 3 fois pour lui permettre à 3 reprises de dire son attachement, comme 3 fois il l'avait renié. « Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » lui demande-t-il. « Je t'appelle par ton nom. » C'est une parole de l'Écriture, et c'est aussi ce qui a guidé le Seigneur dans certaines de ses apparitions. C'est d'abord à des personnes que s'intéresse le Seigneur Jésus, le ressuscité. Et ça compte plus pour lui que de faire une grande action d'éclat ou que les honneurs grisants des foules. C'est nous qui comptons pour lui, nous personnellement, Marie, Simon, fils de Jonas. C'est nous avec nos états d'âme, nos craintes, nos remords peut-être, nos blessures, notre présent, notre passé, notre avenir. Il prononce notre nom. Le ressuscité prononce notre nom pour nous offrir les fruits de son œuvre. Savons-nous lui répondre ? Il veut nous rencontrer. Sommes-nous ouverts devant lui, honnêtes, sans fard ni masque, sans réserve ni dissimulation ? Peut-être que parmi nous, certains ce matin préféraient fête et Pâques un peu incognito. Mais sachez que c'est vous, très précisément, personnellement, qui intéressez le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité, le Seigneur qui a tout accompli pour vous. C'est vous qu'il veut rencontrer ou retrouver en ce matin de Pâques. C'est dans votre cœur qu'il veut faire jaillir sa vie nouvelle ou son pardon. C'est de votre vie qu'il veut faire quelque chose de tout neuf. Mais pour cela, il vous faut vous tenir personnellement devant lui, comme Marie, comme Pierre. Il vous faut le laisser vous dire votre prénom. Une question personnelle, donc un choix personnel du Seigneur. Mais c'est aussi sa façon dont le Seigneur s'est présenté aux hommes. C'est aussi une question d'humanité, un regard particulier sur l'humanité. Jésus rejoint des personnes en vue d'une relation, mais il rejoint ces personnes dans l'ordinaire de l'existence humaine. Il y a là quelque chose de très étonnant. Jésus a connu l'extraordinaire de la victoire sur la mort. Il revient du lieu d'où personne n'est revenu. Il peut dire cette phrase immense, « J'étais mort ». J'étais mort. Vous rendez compte de ce que ça veut dire? Jésus peut dire cela. Mais ce n'est pas de cela qu'il parle. Ce n'est pas là-dessus qu'il disserte. Il a un corps de résurrection. Mais de ce corps de résurrection, il présente quoi? Il présente la marque des clous dans ses mains et celle de la lance dans son côté. Jésus ne fait pas toute une démonstration à ses disciples de toutes les possibilités de son corps de résurrection. Jésus n'initie pas ses disciples aux possibilités nouvelles que donne un corps de résurrection. Jésus ne fait pas rêver ses disciples d'une vie désormais détachée de toute limite humaine, où l'on peut traverser les murs, illustrée par toutes sortes de capacités de son nouveau corps. Au contraire, il les rejoint là où eux sont, sur le terrain très concret de leur humanité. Il leur partage du pain et du poisson sur les rives du lac de Tibériade, en des gestes très simples, trop simples pour ne pas être choisis. C'est ce qui frappe Fabrice Hadjadj, dont vous ai parlé tout à l'heure, cette volonté de Jésus d'affirmer l'humain ordinaire, alors qu'il a entre ses mains tout l'extraordinaire qui permettrait de s'échapper justement des limites de l'humanité. Hadjadj oppose ici Jésus à tout le rêve transhumaniste. Vous savez, c'est un mouvement qui se développe aux États-Unis, où on cherche à réaliser un humain d'un genre nouveau, un humain qui sera désormais augmenté en quelque sorte par toutes les ressources de la technologie. Google investit des milliards de dollars dans ses recherches aujourd'hui. Ray Kurzweil, ingénieur en chef de Google, annonce tranquillement qu'en l'année 2030, l'homme pourra télécharger son cerveau dans un ordinateur. C'est sérieux, c'est ce qui se dit. Il y a des milliards qui sont investis pour ça. L'avenir de l'homme, pour les transhumanistes, est dans la combinaison de l'humain et de la technologie, dans le prolongement de l'humain par toutes les ressources de la technologie. L'avenir de l'homme, ce sont des êtres humains sur qui on grèvera des parties mécaniques ou des suppléments technologiques. Les cyborgs, des ouvrages de science-fiction qui combinent l'homme et toutes sortes de technologies, ces cyborgs sont déjà aujourd'hui les personnages de dessins animés qui nourrissent l'imaginaire de nos enfants. Certains rêvent ainsi de jeunesse éternelle, de faire vivre l'homme plus de 500 ans, et pourquoi pas de le rendre immortel grâce aux technologies de l'intelligence artificielle. Le nouvel homme, c'est comme cela qu'on le voit. La résurrection de la chair, la résurrection d'entre les morts, est tout à l'opposé de ces rêves de folie et de ces échappatoires hors de l'humain. Car souligne Hadjadj, pour être un bon ressuscité, il faut d'abord être un bon mort. Ça, c'est une pensée à méditer. Pour être un bon ressuscité, il faut d'abord être un bon mort. Parler de résurrection, c'est parler de la mort. La promesse de la résurrection ne fait pas échapper à l'expérience de la mort, sauf pour ceux qui seront vivants lorsque le Seigneur Jésus reviendra en gloire. Mais la résurrection donne une assurance forte face à la réalité de la mort. Ennemi vaincu, mais ennemi quand même. Et le Christ ressuscité ne nous enseigne pas à échapper aux limites de la vie ordinaire. Il préfère nous rejoindre, nous l'avons dit, sur le terrain de la vie de tous les jours, de notre vie à nous. La résurrection, enfin, préserve notre humanité dans son intégralité. Lorsque l'homme veut gagner de la puissance, il faut qu'il se mute par la machine. Il faut qu'il augmente ses capacités par la technologie. Et qui vous dit qu'un jour cette technologie ne va pas le dominer ? Le Seigneur, lui, préserve notre humanité intacte et la fait accéder intacte à la vie éternelle. C'est la différence entre l'œuvre du Créateur et l'œuvre soi-disant créatrice de sa créature. La résurrection, comme la naissance, proclame que la vie est un don, que la vie est un don. Nous le savons pour la naissance, nul ne peut se donner la vie lui-même. Nous la recevons tous, la vie de nos parents, qui l'ont eux-mêmes reçue, c'est inscrit dans la vie, elle est don. La résurrection, pareillement, est le don gratuit de Dieu pour ceux qui s'ouvrent à lui, qui acceptent que Jésus est mort pour leur péché et ressuscité pour leur salut. Ce don déjà éclaire notre vie aujourd'hui, mais il s'épanouira en plénitude au terme de notre vie humaine, à laquelle pourtant il ne nous fait pas échapper. Ce don, il nous vient de celui qui a traversé la mort, mais qui aujourd'hui encore est dans la gloire du Père, mais dans la gloire du Père avec l'humanité ou dans l'humanité qu'il a revêtue. C'est Jésus-Christ homme qui aujourd'hui, dans le ciel, est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme, qui reviendra en gloire. Il reste le garant de notre humanité tout en l'ouvrant à l'espérance suite à son action. Une question d'humanité donc, très profondément, que la résurrection d'entre les morts, que la résurrection de la chair, comme le dit le Credo. Et puis, la raison pour laquelle Jésus se manifeste de cette manière particulière et humble, c'est aussi une question de temps, question de la succession des temps. Jésus ressuscité s'est manifesté à ses proches pour les assurer de son triomphe et les éveiller chacun à la joie de l'espérance. Mais quelque chose a changé par rapport à tout ce qui précédait. Jésus n'est physiquement présent qu'à certains moments, en pointillé. Jésus ressuscité étale un petit peu ses apparitions. Lui seul prend l'initiative de venir, mais ce sera pour se manifester et non pas pour rester. Et pas question de vouloir le retenir. « Ne me retiens pas, dit-il à Marie-Madeleine, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et c'est le signe qu'un nouveau temps va s'ouvrir, après le temps de la vue, après le temps où Jésus a marché vraiment avec nous sur la terre, très concrètement, physiquement, par son corps. Après le temps de la vue, c'est maintenant le temps de la foi qui s'ouvre. Et Jésus n'a pas organisé de grandes manifestations publiques parce qu'il a voulu que ceux qui s'approchent de lui le fassent désormais par la foi. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. dit-il à Thomas. C'est l'ordre nouveau, introduit par la résurrection, après la mort de Jésus pour nos péchés. Il a tout fait pour nous. Il nous revient maintenant de croire, de nous ouvrir à lui, d'accepter vraiment ce qu'il a fait pour nous. Le temps de la vue. On peut voir par les yeux, mais rester extérieur par le cœur. Ça a été le cas de beaucoup de personnes qui ont vu Jésus, qui ont vu ses miracles, qui ont vu tout ce qu'il a fait quand il était sur terre. Or Jésus veut avant tout un engagement du cœur, un engagement de toute la personne. Et croire sans voir, cela nécessite ce genre d'engagement. S'attacher à la personne du Seigneur, s'attacher à son œuvre accomplie que l'on accepte vraiment pour soi. Et c'est parce que Jésus veut nous conduire à cela qu'il change sa manière de se présenter à ses disciples une fois ressuscité d'entre les morts. Jésus refuse aussi de se manifester aux foules. Il y a là probablement aussi une forme de jugement sur l'incrédulité de ces foules au temps où elles ont vu. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. C'est ce que Jésus disait à Jérusalem juste avant sa passion. Et cela nous avertit du besoin pour nous aussi de reconnaître les temps où Dieu s'approche de nous, de reconnaître les temps où Dieu parle à notre conscience peut-être, où il nous appelle à lui, où il nous rappelle à lui. Pour les disciples, ce temps est une étape où progressivement, il leur apprend une nouvelle forme de relation avec lui. Il va monter au ciel. Il leur faut apprendre désormais à cultiver leur relation avec lui par la prière. Ils ne seront plus portés, ils ne seront plus pris en charge comme Jésus, comme il l'était du temps du ministère terrestre. Mais ils devront vivre leur vie en comptant sur sa présence, en comptant sur son aide. Il leur faut apprendre enfin la confiance, donner valeur à sa parole, à ses promesses, compter sur son action au temps favorable. Et cet apprentissage, Jésus le leur fait faire progressivement pendant ce temps où ils restent sur cette terre et où ils se manifestent mais en pointillé. Il leur promettra d'être avec eux tous les jours, mais ce sera par son esprit en eux, pas par sa présence physique. Il y a là un grand changement pour les disciples. Mais on voit que Jésus accompagne ce changement de manière adaptée, de manière progressive. Et ce qui fait que les disciples de Jésus ne seront pas démunis, ne seront pas complètement perdus, désemparés, lorsque Jésus sera remonté au ciel. Ils seront prêts. Même s'il a fallu une pédagogie de l'absence, à rebrousse-poil de leurs désirs, certainement. Jésus montre aussi, de cette façon-là, qu'il comprend nos besoins de cheminement, et qu'il veut accompagner les besoins de cheminement qui sont les nôtres. Nous avons, nous aussi, des étapes dans notre vie. Notre foi ne se vit pas de la même façon tout au long de notre vie. Il y a des moments où la présence de Dieu est très vive, très forte, très sensible, où on est presque porté par cette présence. Parfois, c'est moins fort. On ressent moins le poids d'un Dieu tellement présent qui nous soutient en tout, et bien plus le poids de notre responsabilité. On a des étapes de vie comme cela. À certains moments aussi, notre foi trouve mille moyens de s'exprimer. On a des forces, on a du temps, on a de l'énergie. À d'autres moments, à cause de l'âge peut-être, à cause de la fatigue, de la maladie, je ne sais, cela nous est partiellement ôté. Mais la foi n'est pas liée à un modèle, à un type de situation de vie. On découvre, par la présence du Seigneur, par l'action de son Esprit, d'autres ressources qui nous sont données pour d'autres situations que nous vivons. ressource de sérénité, de paix plus profonde peut-être, de confiance qui s'abandonne. Et la certitude que l'espérance demeure, la certitude que la vie a été manifestée, la certitude que Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, cette certitude reste notre repère, notre force, notre lumière. Le Christ ressuscité nous permet à nous aussi donc de franchir ces étapes de notre vie, comme il a aidé ses disciples à franchir cette étape particulière, et nous aide à franchir ces étapes en assumant humblement, mais sereinement, ce que nous sommes, ce que nous avons à vivre. Et il le fait par l'action de son esprit. Une question de temps, donc, et d'étapes. Et le Seigneur accompagne les étapes de nos vies, comme il a accompagné ces étapes de ses disciples. Et puis, dernier regard, cette façon dont le Seigneur se manifeste, c'est aussi une question de mission. Jésus a voulu, dans le scénario qu'il a choisi pour se manifester après sa résurrection, il a voulu attester la force de l'espérance par des témoins multiples et crédibles. Mais il a voulu aussi que la réalité de la résurrection se manifeste au monde par des vies transformées, par des vies transformées. Et c'est ainsi qu'à chaque fois que Jésus apparaît à ses disciples, il leur rappelle que sa résurrection ouvre devant eux une mission. « Va trouver mes frères, » demande-t-il à Marie-Madeleine. « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie, » dit-il aux disciples dans la chambre haute. « Prends soin de mes brebis, » demande-t-il à Pierre. À chaque fois, c'est la note, la même note, c'est la même ouverture, le même élan qui est proposé. Une question de mission. Et c'est vrai qu'une formidable lumière s'est levée en ce matin de Pâques. Elle n'a pas brillé sur le coup de mille feux éclatants pour éblouir les foules. Mais c'est parce que cette lumière était appelée aussi à se répandre en transformant des vies. À se répandre par le message, oui, de ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi par le message de vie transformée, de vie illuminée par ceux qui recevraient le Christ et qui pourraient, à leur tour, l'apporter à d'autres. Jésus n'a pas fait de grands shows publics lors de sa résurrection, mais il a par son œuvre, et il veut par son œuvre, il a bouleversé des vies d'hommes et de femmes. Il a fait naître en eux une vie nouvelle. Et la démonstration de la puissance de sa résurrection, c'est aussi dans ses vies, dans notre vie, dans ma vie, qu'elle est appelée à se faire. La résurrection de Jésus, nous dit l'apôtre Paul, nous invite à marcher en nouveauté de vie. C'est ce que rappelle l'acte même du baptême, où l'on s'identifie à la mort et à la résurrection de Christ pour marcher en nouveauté de vie. Nous appartenons à celui qui est ressuscité des morts, dit Paul encore, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains 7, verset 4. Être ressuscité avec Christ, c'est revêtir l'homme nouveau, et pas un transhumain plein de technologie, mais l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Que produit la vérité, ce que dit Paul dans Éphésiens 4, verset 25. Pas un cyborg, mi-homme, ni robot, mais un homme, une femme, authentiquement humain, en qui Dieu agit. Et en qui Dieu agit pourquoi ? Je cite encore l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, pour nous faire renoncer aux mensonges, pour nous faire renoncer à la colère, à la méchanceté, à toute malhonnêteté, à toute calomnie, et faire de nous des imitateurs de notre Dieu, comme des enfants bien-aimés, qui marchent dans l'amour, comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Voilà le fruit profond de la résurrection. Pas une simple démonstration de force et de puissance, mais une semence de vie nouvelle, dans la beauté de ce que Dieu aime, dans l'harmonie de tout ce que Dieu fait et tient en réserve pour nous. Car le projet de Dieu, il faut bien le souligner, le grand projet de Dieu, ce n'est pas simplement de nous donner une vie éternelle qui dure encore 500 ans, 700, 1000 et tout ce que vous voulez. Le projet de Dieu, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice coule comme un fleuve, où le loup habite avec l'agneau, où les épées deviennent des socs pour cultiver la terre et lui faire produire tous ses beaux fruits. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit le prophète Ésaïe, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Voilà notre espérance, l'espérance qu'apporte la résurrection de Jésus, un renouvellement profond, un changement qualitatif, bien plus radical, bien plus riche qu'une durée de vie illimitée. Ne nous trompons pas d'espérance et demandons à Dieu de nous orienter dès maintenant dans la ligne de son dessein par des vies qu'il éclaire, par des vies qu'il renouvelle, par des vies qu'il transforme. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.